Super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordi.
Direction Dell.fr. Tiens, regarde, 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro.
Génial.
Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison.
Top Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile.
L'XPS 12, PC et tablette.
Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr?
Jusqu'à 100 euros de réduction sur une sélection de PC. T'en prendras aussi un portable mère?
Ou pas.
Voir modalité sur Dell.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est demain samedi que partira le Tour de France, un départ en beauté dans l'île du même nom. Et Franck Ferrand, aujourd'hui sur Europe 1, nous raconte la Grande Boucle. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le Tour de France est un des événements sportifs les plus médiatisés de la planète. Mais ce n'est pas seulement un événement sportif. Il faut parler de phénomène culturel lorsqu'on évoque ce grand rendez-vous annuel du début de l'été. Nos plus grands écrivains, vous allez le voir tout à l'heure, lui ont depuis longtemps donné ses lettres de noblesse. Alors, à la veille de cette 100e édition du Tour de France, et oui, le premier était en 1903, mais il y a eu quelques interruptions, ce qui fait que c'est la 100e édition du Tour, je suis heureux de vous proposer une grande plongée au cœur d'une de nos plus belles sagas nationales.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Au moment de sa naissance, en 1903, le Tour de France n'était pas la première course cycliste hors piste, loin s'en faut. Il faut vous dire que depuis 12 ans existait déjà le Bordeaux-Paris, il y avait également un Paris-Brest et retour, qui étaient des épreuves tout à fait redoutables, mais des épreuves ville à ville. Le Tour de France sera la première course par étapes, et quelles étapes ? Pour parcourir les 2428 km du premier parcours, en 3 semaines, puisque la course a eu lieu du 1er au 19 juillet 1903, on avait choisi 6 étapes seulement, 6 étapes jalonnées par les plus grandes villes de France. Paris-Lyon, Lyon-Marseille, Marseille-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, Bordeaux-Nantes, Nantes-Paris, ou plus exactement Ville d'Avray, puisque c'est là que le tour s'achevait. Alors il était parti de Montgeron, ce Tour de France, à l'orée de la forêt de Sénart, à 5h16 du matin, ce 1er juillet 1903. Il était parti sur un coup de pistolet tiré par le père Alran, un vieillard désinvolte qui faisait office de starter. Il y avait 60 concurrents ce jour-là. Il s'était retrouvé à l'intersection des routes de Corbeil et de Melun, à l'auberge du Réveil Matin, qui, entre nous soit dit, existe toujours. Alors, elle a beaucoup changé depuis, mais enfin, elle est toujours là, au même endroit. Nos 60 premiers concurrents du premier Tour de France, il faut les imaginer avec leurs grosses bécanes et leurs boyaux de rechange, bien entendu, les voilà, ils viennent de partir. Mais au fait, comment en est-on arrivé là ? Pourquoi ce Tour de France ? Eh bien, c'est ici que la petite histoire rejoint la grande. Il faut se remettre dans le contexte de cette toute fin du 19e, tout début du 20e siècle. On est encore dans l'affaire Dreyfus. Or, le journal Le Vélo, qui est le grand quotidien de sport, qui tire à 80 000 exemplaires, qui tire sur papier vert d'ailleurs, Le Vélo est dirigé par le fameux Pierre Giffard, grand patron de presse s'il en fut. Or, Giffard est Dreyfusard. Dreyfusard, c'est-à-dire qu'il soutient, qu'il défend l'honneur du capitaine Dreyfus. Tout ça déplaît énormément à un certain nombre de ses actionnaires. Il faut vous dire qu'à cette époque, les actionnaires étaient plus volontiers anti-Dreyfusard. Et c'était le cas notamment du comte Albert de Dion, qui lui est un farouche anti-Dreyfusard. Alors, avec un certain nombre d'annonceurs, il décide de créer un autre journal qui va être le concurrent du vélo et qui va s'appeler l'Auto-Vélo. Et celui-là tirera sur papier jaune. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il nous ennuie avec la couleur du papier, mais parce que ça a un rôle très important. C'est l'origine tout simplement du maillot jaune. Alors à qui confier ce nouveau journal, l'Auto-Vélo ? Eh bien celui qui en a eu l'idée, un sportif comme on pouvait dire en ce tournant de siècle, un ami de Pierre de Coubertin du reste, le jeune Henri Desgranges qui avait été clerc d'avoué et qui surtout aura été le chantre de la petite reine et le premier recordman de l'heure à bicyclette. Le journal est donc créé au tout début du siècle et il va lui falloir essayer de s'imposer face à l'institution, face au vélo de Giffard. Alors, eh bien, quand les uns lancent un Bordeaux-Paris, les autres vont y organiser dès le lendemain un contre-Bordeaux-Paris. Même chose, on va créer un Marseille-Paris pour essayer de faire en quelque sorte de la contre-publicité. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit d'autant moins que la justice vient de donner raison au vélo qui ordonne qu'on retire à l'autovélo la moitié de son titre. Ça devient simplement le journal L'Auto. Il s'agit de réagir, il faut créer l'événement. Mais quel événement ? Le meilleur moyen de populariser le bicycle consiste à organiser des compétitions susceptibles de frapper l'imagination des foules par leur ampleur et leur fantastique, déclarera Richard Lesclit, qui est l'ancien secrétaire de Victor Hugo et surtout le créateur du vélocipède illustré. Il faut donc créer une compétition, quelque chose qui soit de taille à clouer Giffard au tapis. L'idée, elle vient d'un collaborateur de l'Auto, Géo Lefebvre, qui va décider de créer la plus longue course de toutes, si vous voulez. Un peu comme les 6 jours de la piste, sauf que cette fois, ce sera sur la route. Alors bien entendu, ça suppose de régler toutes sortes de problèmes, vous imaginez. Il faut immobiliser des routes entières, il faut régler la question des frais de route. Hein, et les coureurs doivent en assurer une partie. Alors, ceux qui, au cours de ce premier Tour de France, ceux qui feront l'étape à une vitesse moyenne de plus de 20 km/h, se verront défrayés. Au passage, on va repousser le départ qui initialement avait été prévu au 1er juin, on le repousse au 1er juillet. Et voilà comment naît donc le 1er juillet 1903, comment ces 60 concurrents réunis au réveil matin vont se lancer dans ce qui devient d'emblée l'une des grandes aventures des temps modernes.
Je vous parle en direct de cette 17e étape du Tour de France. Le peloton, énorme machine de muscles et d'acier, vient de s'élancer.
Restez sur Europe 1 avec Tour de France, extrait de la bande originale du film animé. Très bon film, Les Triplettes de Belleville. A tout de suite pour la suite d'Au cœur de l'histoire.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous célébrons les 100 ans du Tour de France aujourd'hui sur Europe 1, avec vous Franck évidemment et vos invités.
Bonjour messieurs, c'est toujours une grande aventure Alban Le Poivre, ce départ du Tour de France. Pour vous, c'est le grand moment de l'année j'imagine.
Quand on est fan de vélo comme moi et comme tout le monde ici autour de la table, c'est le grand moment, c'est la grande course de l'année. Et pour reprendre des termes de Christian Prudhomme et qui lui-même les a repris à d'autres personnes, le Tour de France est plus fort que tout, le Tour de France résiste à tout. C'est pourquoi c'est une course, au-delà d'une course, c'est un événement au-delà du sport. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui avec vous Franck.
Exactement, c'est un événement culturel, je crois qu'on peut le dire. Et ce qui est assez frappant, c'est que, bien sûr qu'on va parler de sport aujourd'hui et principalement de sport, mais c'est que c'est aussi toute une ambiance, c'est un monde particulier. Est-ce que ce monde-là, on l'a vu évoluer, Jean-François Pécheux, par rapport au premier tour que vous avez suivi, vous ?
Oui, ça évolue, mais c'est pas si vieux que ça, je suis pas si vieux que ça.
Non, certes, mais enfin tout de même.
Mais c'est une trentaine d'années, mais on a vu l'évolution, l'internationalisation surtout, avec un public de plus en plus
qui vient d'un peu
international.
Partout,
On l'a vu ces dernières années avec les vainqueurs différents. Mais c'est vrai qu'on a vécu l'évolution du Tour de France.
Si le Tour de France est devenu un phénomène culturel, Benoît Hemmermann, c'est aussi parce qu'un certain nombre de grandes plumes l'ont suivi, se sont passionnés pour les résultats, ont donné en quelque sorte ces lettres de noblesse. Non seulement au sport lui-même, au cyclisme, qui peut-être n'en avait pas tant besoin, mais à la course elle-même. Ils ont fait du Tour de France un grand événement national.
Vous parliez du Tour de France de 1903.
Et oui.
Moi, je vais vous parler de la première étape du Tour de 1903. Elle est constitutive de ce mariage entre le récit et les coureurs.
Absolument, je vois où vous
dans
voulez
la,
en venir.
Dans la mesure où Géo Lefebvre, qui a soufflé cette idée à Léo Desgranges, est également journaliste et doit rendre compte de cette première étape. Et donc, il saute dans un train, dans un deuxième train. Il essaie d'aller à la gare, il essaie de rejoindre Lyon, il va arriver après les coureurs. Donc déjà là, on a le ferment, si vous voulez, de la littérature. On est obligé, bien sûr, il va recueillir la parole des coureurs, mais il est obligé d'inventer un peu. Et c'est ce qui a fait ce mariage littérature-Tour de France, c'est que contrairement au sport de stade, de salle, de circuit, on ne voit pas la course. Tant que la télévision n'était pas là, il fallait la raconter, donc la sublimer, donc utiliser la surenchère et les adverbes.
Et entre les deux, il y aura eu la grande époque de la radio, mais ça, ça nous entraînerait ailleurs. Et puis, c'est ce dont je vous avais parlé l'année dernière avec, justement, c'est ce qu'on avait fait avec Alban Le Poivre. On avait parlé de ces grandes heures radiophoniques du Tour de France. Alors, je disais tout à l'heure que les coureurs partaient avec de grosses bécanes. Il faut dire que les vélos étaient lourds à l'époque. Et puis, alors, il fallait soi-même assurer les réparations quand ils...
Les vélos, d'abord, il n'y avait pas de dérailleur. Donc on avait,
Jean-François Pécheux.
On avait une roue avec une seule roue libre. Il fallait se débrouiller, il fallait emmener des boyaux pour changer pas le boyau parce que ça n'existait pas, c'était la chambre à air, il fallait la pompe, enfin bref, c'était des vélos qui pesaient 25 kilos à l'époque.
Avec des suiveurs qui étaient nettement moins nombreux, c'était beaucoup plus compliqué parce que ce qu'il faut dire, c'est que les voitures tombaient encore plus facilement en panne hein, à
oui,
l'époque.
Bah dans la première année d'ailleurs, il y a eu le Tour de France a failli s'arrêter la première année à cause de la tricherie qu'il y avait. Il y avait des coureurs qui empruntaient le train, d'autres qui montaient dans des voitures, bref, c'était très très difficile à contrôler. La longueur des étapes aussi, hein. Paris-Lyon, ça se fait pas comme ça non plus.
Une partie du parcours n'était même pas goudronnée. Aujourd'hui, nous sommes habitués à avoir de belles routes très bien asphaltées. J'imagine que vous les choisissez d'ailleurs un peu en fonction de leur revêtement.
Pas forcément, mais je pense que maintenant, les départements et les régions font le maximum pour, justement grâce à la télévision, montrer un beau département. Pour montrer un beau département, il faut des belles routes. Tout est lié. Donc maintenant, c'est vrai que ça
n'a rien à voir. On fait le ménage avant l'arrivée du Tour.
On prépare le passage du Tour, ça c'est sûr.
J'ai parlé à Alban Le Poivre du maillot jaune, hein, de son origine, mais peu à peu se sont créés au fil des années toutes sortes de maillots qui désignent un certain nombre de champions.
Oui, des maillots distinctifs, maillot vert, classement par points, qui est considéré, on va dire, vulgairement comme le classement du meilleur sprinter, même si c'est y a une petite frontière. Le classement, évidemment, du maillot à poids, du meilleur grimpeur, avec Richard Virenque, notre consultant sur Europe 1, qui l'a magnifié. Et d'autres maillots qui sont arrivés ensuite avec le dernier en date, le plus jeune, et ça lui colle bien à la peau, le maillot blanc, qui récompense le meilleur jeune à l'arrivée du Tour, les meilleurs jeunes en vélo étant les coureurs de moins de 25 ans. C'est dire si le vélo est un sport compliqué, parce que dans les autres sports, on considère un joueur, par exemple en football, un joueur jeune, c'est un joueur de moins de 20 ans, par exemple. En vélo, aujourd'hui, c'est moins de 25 ans, on est considéré comme jeune. C'est dire que c'est un sport qui nécessite de l'expérience avant tout.
Et quelle endurance, c'est tout à fait extraordinaire ce qu'on demande à chacun de ces coureurs. Je sais qu'on va le dire et le redire pendant ces quelques semaines, mais il n'y a pas que les grands champions, bien entendu. C'est ce qu'on demande à tous les coureurs et tout à fait extraordinaire, bien entendu.
Oui, bien sûr. On est à combien, Jean-François, cette année? Quasiment 3000 km, même plus.
3400
ouais, km. Plus de 3400 km à faire en moins de 3 semaines.
C'est mieux que 6 étapes comme en 1900.
Oui,
voilà,
oui,
mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que par rapport, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est énorme, mais par rapport à ce qui se faisait lors des premiers Tours de France avec des étapes qui duraient presque des jours entiers où les coureurs arrivaient à la nuit tombée, aujourd'hui les coureurs d'aujourd'hui sont presque des privilégiés.
Faut parler des équipes, expliquer ça quand même. Alors je pense que s'il y a bien un sport très populaire et un événement que tout le monde connaît, c'est le Tour de France, mais tout de même c'est une des particularités. Il faut expliquer ce système des équipes et son évolution dans le temps, hein, du reste, parce que ça n'a pas toujours été identique.
Ça a d'abord été un sport individuel, ça reste un sport individuel et c'est ça l'ambiguïté du système, c'est que c'est un sport individuel qui se court par équipe.
Voilà.
C'est le seul sport qui est comme ça. Donc voilà, donc il y a des équipes formées de 9 coureurs chacune, mais il y a eu toute une évolution puisque au départ, il y avait c'était des coureurs individuels. Ensuite, il y a eu des équipes nationales, donc les meilleurs coureurs de chaque nation. Ensuite, il y a eu l'arrivée des sponsors et là, des groupes sportifs. Et aujourd'hui, nous avons 22 groupes sportifs qui réunissent 9 coureurs. À l'intérieur de chaque équipe, il y a différentes nationalités de représentées. Et on aura, nous, cette année, une quarantaine de coureurs français au départ.
Alors évidemment, ce qui passionne particulièrement le public, ce sont les étapes de montagne, avec ces noms devenus mythiques, légendaires dans le monde entier, le Tourmalet, l'Aubisque, l'Izoard, le Galibier, l'Alpe d'Huez. C'est assez étonnant d'ailleurs de penser que ces montagnes, ces cols, doivent leur célébrité à une épreuve sportive, à un grand événement. Et quel événement? Le Tour de France dont nous parlons aujourd'hui.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et pour parler notamment des courses de montagne maintenant, Franck, vous recevez Jean-François Pécheux, ancien coureur cycliste, directeur de course du Tour de France.
Alors évidemment, nous allons venir à ces étapes de montagne, mais avant cela, parlons peut-être d'autres régions très importantes pour le Tour de France. Je pense notamment à la Bretagne, Jean-François Pécheux.
Oui, la Bretagne, terre de cyclisme, donc il y a des lieux emblématiques en Bretagne, avec des côtes et des villes qui accueillent, qui ont accueilli et qui accueillent encore le Tour de France. La Bretagne, c'est un pays, un département, une région incontournable pour le passage du Tour.
Oui, ça fait partie, on peut dire, ça fait partie des passages, obligés. Hein, voilà. Bien sûr, l'arrivée à Paris, mais ça n'a pas toujours été le cas, hein, d'ailleurs.
Alors, Paris, c'était la ville d'Avray la première année. Ensuite, il y a eu Paris, le Parc des Princes. Ensuite, il y a eu la démolition du Parc des Princes.
L'ancien Parc des Princes.
Nous sommes retrouvés à la Cipale, la fameuse Cipale à Vincennes, toujours sur Paris. Et depuis 1975, nous arrivons sur les Champs-Élysées à Paris.
Ça fait partie maintenant. Alors ça,
ça fait partie des hauts lieux du cyclisme. Les coureurs, moi, je vois encore l'an passé des coureurs prendre des photos en passant sous la Tour Eiffel. Ils sortent leur appareil photo.
C'est un peu plus détendu ce jour-là.
Oui, le dernier jour, c'est un peu détendu. Mais quand même, quand on voit un coureur de ce niveau-là prendre une photo de la Tour Eiffel, ça veut dire quelque chose.
Mais alors évidemment, avant d'arriver sur les Champs-Élysées, il y a eu les grandes étapes de montagne. Je me rappelle, moi, étant petit, posté sur une route du Tourmalet et voir les coureurs. Alors là, ce qui est formidable dans ces étapes de montagne, c'est qu'on les voit souvent très l'un après l'autre, si je puis dire, très espacés. Et puis, ils ne roulent pas très vite. Alors, oui. on a le temps de les observer.
On peut les observer, on peut presque les toucher.
Certains, malheureusement, d'ailleurs, ne s'en font pas des fous.
Mais c'est vrai que les étapes de montagne, ça reste un grand, grand moment du Tour de France. Et ça fait partie de la légende du Tour, grâce à tout ce qui s'est passé dans ces montagnes, les drames, les joies, les drames, tout ce qui s'est passé, c'est ce qui fait l'histoire du Tour.
Le passage n'a pas toujours lieu dans le même sens. Parfois, c'est d'abord les Alpes, parfois d'abord les Pyrénées.
Oui, effectivement. Là, c'est plus Jean-François Pécheux qui peut répondre. C'est lui qui trace la route du Tour de France depuis des années.
On essaie. Il n'y a rien de décrit. Hein. C'est une fois les Alpes, une fois les Pyrénées.
Mais c'est l'alternance, généralement.
Toutefois, on pouvait faire deux fois les Alpes et deux fois les Pyrénées après, il n'y aurait pas aucune remarque là-dessus. Parce qu'il y a eu au départ, le Tour de France était toujours dans le même sens, pendant plusieurs années. Ensuite, il a retourné dans l'autre sens plusieurs années. Et puis après, il y a eu une rotation qui s'est faite régulièrement depuis la Deuxième Guerre mondiale.
On n'imagine pas un Tour de France sans l'Aubisque et le Galibier, tout de même.
Si, on peut très bien passer cette année. On peut très bien passer les montagnes sans passer les grands cols. Alors là, on dit c'est moins dur. Mais vous inquiétez pas, on retrouve des petits cols aussi sympathiques et aussi durs que les grands.
Il y a une étape de montagne que je n'ai pas évoquée, c'est le Mont Ventoux, évidemment. Il y a quelque chose de particulier qui s'attache.
Le Mont Ventoux est particulier, c'est le Mont Chauve ou le col des tempêtes. Alors pourquoi les tempêtes? Parce qu'il y a toujours du vent. Et souvent vent défavorable, mais c'est le seul grand col que l'on retrouve sur les différentes étapes, parce qu'il est tout seul, il y a rien autour, c'est pratiquement plat, et d'un seul coup il y a ce Mont Ventoux difficile. Il fait souvent très chaud et il se passe beaucoup de choses dans ce Mont Ventoux. Il est difficile à aborder.
Il y a en quelque sorte des duels chevaleresques hein, dans cette étape du Mont Ventoux, généralement. Alban, le poivre.
Il s'est passé énormément de choses dans ce Mont Ventoux. On peut retenir, c'est vrai qu'il y a eu des duels. Eddy Merckx au Kenya, entre autres. C'est surtout... Enfin, pour moi, personnellement, c'est surtout un lieu mythique où il s'est passé tellement de choses au-delà des duels.
La victoire de Louison Bobet en 55.
Le premier passage avec la victoire de Louison Bobet. Le décès, malheureusement, de Tom Simpson.
Alors, on va en parler tout à l'heure.
Qui a rendu célèbre le Mont Ventoux. La victoire de Jean-François Bernard en 1987, qui était alors un jeune coureur prometteur à qui on prédisait un grand avenir. Il s'est toujours passé quelque chose au Mont Ventoux.
Autant, finalement, d'épisodes qui ont été gravés dans le marbre grâce à ces écrivains, grâce à ces faiseurs de légendes qui, depuis le début, accompagnent le Tour. C'est à eux désormais que nous allons faire référence.
Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Et pour son récit sur Europe 1, Franck feuillette maintenant le livre de Benoît Emmermann. Ils ont écrit le Tour de France, la grande boucle vue par les écrivains, disponible chez Flammarion.
Jacques Perret, grand styliste s'il en fut jamais, aimait ce qu'il appelait le cortège frénétique et tapageur du Tour de France. Alors, je vais vous lire un extrait d'une des très nombreuses chroniques dont Jacques Perret a régalé ses lecteurs au fil des années. Il est évident, dit-il en parlant du coureur espagnol Gilles, il est évident que son visage tourmenté trahit le vertige des aventures métaphysiques et son rictus exprime une pensée intérieure dans le genre de celle-ci. Si jamais j'agrafe l'imbécile qui a mis le feu à mon caleçon, je lui casse mon vélo de Tolède sur la figure. Un autre, en revanche, un de ces flamands puissants et lascifs comme de grands godilleurs en eau lourde, m'a paru beaucoup moins angoissé, plutôt nostalgique. Il suait comme un homme simple qui taille son chemin sans se poser de questions sur les fins dernières du cyclisme. Il avait l'œil à peine rêveur et pouvait remuer des idées du style « Ah, que ne suis-je assis à l'ombre des forêts ?» Et voilà Copie qui crève devant nous. La camionnette atelier qu'il suit dans sa poussière bloque les freins. Un mécano sort, empoigne une roue de rechange, mais Copie la rejette avec humeur. Elle rebondit sur la route et va se cacher honteusement dans le fossé, tandis que la voix du champion prononce avec force et douleur des mots que je ne comprends pas. Les secondes fichent le camp. Le mécano a sûrement donné une roue qui ne faisait pas l'affaire, une roue de brouette peut-être, ou une roue tordue, une vieille roue de loterie voilée, une roue de Bartali si cela se trouve. En tout cas, les secondes continuent à se perdre. Nous vivons une scène imposante. Copie peste et gémit, tandis que le mécano, sentant passer sur lui la colère du géant, s'énerve dans le paquet de roues pour trouver enfin la bonne. Je ne dis pas que la carrière du mécano soit brisée, non. Mais tout de même, il aura pris 10 secondes à la gloire du campionissimo. Il va les traîner toute sa vie. Alors, je vous disais que le Tour de France n'était pas forcément l'événement sportif. Il y a tout ce qui l'accompagne, bien entendu, et c'est ce que raconte notamment Louis Aragon. Le Tour, écrivait-il en 1947, le Tour, c'est ce soir qu'ils partent. Toutes les années de mon enfance, j'habitais Neuilly. Ce soir-là était une date féerique. Je m'échappais de chez mes parents pour aller me mêler à ce cheminement mystérieux qui, de toutes les directions, convergeait vers la porte du bois. C'était pour moi sans rapport avec quoi que ce soit, une sorte de cérémonie liée avec le souvenir d'autres âges, d'autres siècles sans bicyclette et sans sport. Le passage des concurrents avec leurs supporters dans la nuit chaude, l'espèce de grande familiarité de la foule. Tout cela avait d'abord le caractère d'une fête de l'été, commençant comme la mémoire des fêtes païennes, mais s'y mélangeait la mythologie moderne et cette odeur d'asphalte et d'essence qui hantait la porte Maillot. Donc là, c'est plutôt le climat, c'est l'atmosphère qui a retenu l'attention et qui a définitivement marqué Louis Aragon. René Barjavel, et tous ces textes sont extraits de ce recueil, ils ont écrit le Tour de France, la grande boucle vue par les écrivains, qui est publié chez Flammarion par Benoît Emmermann. René Barjavel nous dit « Le Tour de France ». C'est également, c'est malgré tout, la chenille qui, après des soubresauts, des coupures et des ressoudages, finira par arriver au cœur de la feuille du chou, ayant tout au long de la si longue route perdu à peine quelques plumes. La chenille, c'est-à-dire environ 100 garçons qui auront parcouru 3500 km en poussant la roulette avec leurs jambes à des vitesses incroyables que les 100 chevaux des premières voitures automobiles n'auraient jamais osé rêver. Avec ou sans gloire, ils ont tous dépensé la même quantité d'énergie. On ne considère pas assez que le dernier finalement a brouté autant de kilomètres que le premier, sous les mêmes pluies et la même rôtissoire, et qu'il n'a jamais eu le bouquet pour l'encourager, ni le baiser ou le micro tendu aux lèvres, pas même une paire de mains qui l'applaudissent, une bouche qui crie son nom. Partout, le dernier spectateur était parti avant qu'il ne passe. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de citer à ce micro les mythologies de Roland Barthes, bien entendu. Barthes a essayé de capter quels étaient les grands mythes, les grandes légendes des années 50 en France, et bien entendu, le Tour de France, et notamment le Tour de France 1955, qu'il a suivi plus particulièrement, en fait partie. En fait, écrit Barthes, la dynamique du Tour ne connaît que 4 mouvements, mener, suivre, s'échapper, s'affaisser. Mener est l'acte le plus dur, mais aussi le plus inutile. Mener, c'est toujours se sacrifier. C'est un héroïsme pur destiné à afficher un caractère bien plus qu'à assurer un résultat. Suivre, au contraire, est toujours un peu lâche et un peu traître, relevant d'un arrivisme insoucieux de l'honneur. Suivre avec excès, avec provocation, fait franchement partie du mal. S'échapper est un épisode poétique, destiné à illustrer une solitude volontaire, au demeurant peu efficace car on est presque toujours rattrapé, mais glorieuse, à proportion de l'espèce d'honneur inutile qui la soutient. L'affaissement, quant à lui, préfigure l'abandon. Il est toujours affreux. Il attriste comme une débâcle. Dans le Ventoux, certains affaissements ont pris un caractère hiroshimatique, écrit Roland Barthes, avec ce goût, bien entendu, du néologisme qui a fait sa célébrité. Le mot de la fin, j'aimerais qu'il revienne à un anglais de fantaisie, sorti de l'imagination humoristique de Pierre Daninos. C'est le fameux Major Thompson. Ce qui me stupéfiait, en l'occurrence, lui fait dire Daninos, n'était pas tant la tenue négligée de ces messieurs ce sont les coureurs, hein, je vous rassure, mais le fait que la circulation fût paralysée pour eux par les soins de la police, pour eux et pour un cortège de camions appartenant à des firmes de pâtes ou d'apéritifs qui, à première vue, n'avaient rien à faire dans l'histoire, mais y étaient, renseignements pris, tout à fait liés. Je sais qu'il existe un tour d'Angleterre du même genre, mais si peu semblable. D'abord, nos coureurs, loin d'interrompre la circulation, la suivent. Ils s'arrêtent au feu rouge, comme tout le monde. Il s'agit d'amateurs qui, à l'abri des combinaisons publicitaires, se doublent en s'excusant et quittent leur vélo pour le thé, bien sûr. Enfin, ces jeunes gens, auxquels personne ne prête attention chez nous, sont correctement habillés. Je vois que ça vous fait encore rire, Benoît Emmermann.
Le choix bon, je suis surtout content que vous ayez commencé par Perret. Je pense que c'est un oublié, c'est quelqu'un qu'on devrait réhabiliter.
Très grand écrivain.
Très grand écrivain.
Un des hussards. Hein.
Tout à fait. Il a été un peu caché par Blondin, parce que Blondin, 27 Tours de France, 500 chroniques, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et Blondin, qui avait un talent immense, avait toujours considéré que faire une chronique sur le Tour de France ou faire un texte sur le Tour de France, c'était d'abord aligner un certain nombre de jeux de mots. Et je pense que quelqu'un comme Perret avait une littérature beaucoup plus ourlée, beaucoup plus précise, un impressionnisme qui était très intéressant. Aragon aussi est intéressant puisque il était le propriétaire de Ce Soir. Et n'oubliez pas qu'après-guerre, juste après-guerre, Ce Soir et les communistes, il y avait 33% de communistes à l'époque en France, aspiraient à organiser eux-mêmes le Tour de France. Donc Aragon appelait ses coureurs les semeurs d'énergie.
Ce qui m'a frappé dans le remarquable florilège que vous avez ici réuni pour Flammarion, c'est la grande variété de styles, d'inspiration et même de centres d'intérêt.
À cause de l'évolution. Par exemple, en 1939, l'organisateur a trouvé une bonne idée, c'est de demander à 20 écrivains de venir sur le France, à chacun, de décrire une étape. Alors là encore, on est toujours un petit peu dans la glorification du Tour de France. Comme le Tour de France évolue et qu'il devient un reflet de la société, il y a des bons, des méchants, des prévaricateurs, des enthousiastes, les écrivains aussi font un matériel de tout ça, un matériel romanesque, et les auteurs de polar, les auteurs étrangers ont commencé à s'intéresser aussi à ça.
Benoît Emmermann, ils ont écrit le Tour de France, la grande boucle vue par les écrivains. C'est chez Flammarion, avec en couverture le plus beau de tous les textes, un dessin de Sampé. On me signale que Michel Drucker est ici, il est en régie. Eh bien, il va nous rejoindre, c'est notre invité surprise d'aujourd'hui.
La foule attend le Tour de France. Ah, quel tintamarre, ah, quel pavé dans la mare. Avec plus d'un quart d'heure d'avance, un petit gars tout seul pédale entre les tilleuls. Il a le maillot, il a le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Il a le maillot, la foule crie bravo, ça s'est fait dans un éclair au matin clair. Tous les gros bras s'observaient, pas d'accord, c'est alors qu'il a résolu le problème. Il a bondi dans le décor sur son vélo faisant corps avec lui-même. Le guidon vissait dans les paumes, un ultime effort, et voilà, c'est lui le plus fort. Dans la clameur du vélodrome, les bras chargés de fleurs, il pédale tout en douceur. Il a le maillot.
Marcel Amont sur Europe 1 avec Il a le maillot jaune, un titre de 1960. À tout de suite sur Europe 1. Nous sommes bien sur Europe 1 pour évoquer le Tour de France avec vous maintenant, Franck, Michel Drucker.
Lorsqu'on parle de vélo, il n'est jamais loin et je suis très heureux que Michel Drucker ait pu nous rejoindre pour parler de ce Tour de France. On peut parler d'une passion, Michel ?
C'est une passion de l'enfance. Quand, avec maman, on était réfugiés pendant la guerre dans un petit village
des Côtes du Nord devenues Côtes d'Armor, c'était à 15 km de Saint-Malo-le-Grand. Et Saint-Malo-le-Grand, c'est le pays des frères Bobet.
Mais oui.
De Louison Bobet et Jean Bobet. Et j'allais, quand j'étais môme, puisqu'on est allé en vacances tout en adolescence dans ce village qui a tant compté pour nous, quand mon père était en captivité. Et nous allions avec mon frère à vélo chercher le pain à 8 km de notre village qui était Plémé dans l'espoir de rencontrer Louison Bobet. Eh oui. C'était les années 45-5. Oui, je l'ai aperçu, mais je l'ai revu beaucoup plus tard. Et Jean Bobet, qui était une plume brillante, a écrit dans les colonnes du journal Le Monde des papiers magnifiques sur son frère.
Alors c'était évidemment la grande époque où on écoutait le Tour de France à la radio, évidemment, et on suivait toutes les arrivées. On connaissait le nom d'un grand nombre de coureurs, pas seulement les têtes de.
Moi j'étais un fan de Charlie Gaulle, de Bobet, oui. De Coppi,
Charlie
de
Gaulle, le grand grimpeur.
Voilà. Et puis comme je suis normand, en plus c'était Jacques Anquetil. Et puis des années après, le temps a passé. J'ai suivi le Tour de France pour France 2 avec comme chauffeur Raphaël Gemignani. Donc j'avais un bon professeur et surtout j'ai suivi le tour gagné par Greg LeMond qui a battu Laurent Fignon d'une poignée de secondes sur les Champs-Élysées. C'était un drame pour Fignon. J'ai suivi le tour pour France 2, pour Le Parisien, et j'ai découvert la souffrance des coureurs. Et j'étais souvent dans la voiture du docteur Porte, qui est la seule voiture décapotable du peloton, pour qu'il puisse soigner facilement les bobos des coureurs qui viennent se faire soigner à la consultation du matin, sauf qu'elle se fait à 30 à l'heure. Ils sont en file indienne, les coureurs, au début de la course, et ils viennent raconter les bobos de la nuit pour savoir s'ils ont récupéré des efforts, car le médecin les a soignés la veille ou la nuit. Et à 30 à l'heure, ce qui est beaucoup, ils ont la main sur le pare-brise et ils se font soigner, ils se font. Et donc, j'ai suivi ça, je suis rentré bouleversé et je me suis dit, je veux savoir ce que c'est. Et je me suis mis à vélo, mais j'avais déjà 47 ans, qui était bien tard.
Alors, on va venir à votre expérience personnelle du vélo et à cette épreuve que ça constitue, peut-être aussi à l'image que ça peut donner dans la vie. Mais avant cela, pour ce qui est des souvenirs du tour lui-même, vous l'avez vu évoluer, ce Tour de France. Il a changé dans son esprit,
oui,
dans son ambiance.
Ce qui a changé, c'est la télévision. C'est le plus grand spectacle du monde. Maintenant, il y a des hélicoptères, il y a des caméras partout, il y a des acrobates sur des motos avec des caméras qui vous mettent l'objectif dans les jambes même des coureurs.
Le public a changé d'ailleurs aussi, hein, de
oui,
ce point
mais
de vue.
Oui, mais ça reste quand même la fête de juillet. Le Tour de France, c'est le mois de juillet. Sur 5 millions de téléspectateurs qui regardent le Tour à la télévision, il y en a les deux tiers qui ne connaissent rien au vélo, qui ne lisent pas l'équipe, mais qui vous disent « je regarde le Tour parce que je ne voyage jamais ».
C'est une
façon de visiter la France.
Oui, c'est vrai que depuis quelques années, il y a un très gros effort.
Énorme.
On a essayé de montrer le patrimoine, de le mettre en valeur.
C'est Jean-Paul
Olivier
qui raconte ça.
Nous l'avons fait aussi, nous, à Europe 1, on l'a fait pendant plusieurs années.
Tout à fait. Et puis, pour moi, le Tour de France, c'est l'école de la souffrance. Les tours que j'ai suivis, je suis resté à l'arrière du peloton, dans ce qu'on appelle le groupe Eto, ceux qui sont menacés d'élimination, qui se groupent entre eux. Et j'ai suivi beaucoup d'étapes entre le groupe Eto et la voiture balai, au moment où, titubant dans les cols, le pauvre coureur s'arrête, on lui enlève son dossard. Quand on vous enlève votre dossard, vous n'êtes plus rien. Vous montez dans la voiture balai, on vous met une couverture, et souvent, ce sont des gosses. Parce qu'ils sont restés, c'est leur rêve d'enfant de faire le tour. Ils pleurent parce que ils ont abandonné, souvent en direct, et leur famille regarde.
Ouais, c'est assez
terrible. C'est un déchirement.
Il y a les régionaux de l'étape, évidemment, qui se sont
mais
portés au moment.
Vous savez, tout a été écrit là-dessus. Toutes les grandes plumes du journalisme ont écrit, notamment Blondin, bien sûr, mais, sur 170 coureurs, il y a 140 inconnus. On peut pas gagner le tour tout seul. Vous savez, c'est comme à Europe 1, c'est comme à la télévision. On peut pas faire une émission sans équipe. Eh bien, on peut pas gagner le tour sans équipier. Des gens qui vous abritent du vent dans la plaine, les baroudeurs, les rouleurs, les poids légers, les grimpeurs qui vous tirent, parce que il faut connaître le vélo pour savoir qu'avoir quelqu'un qui est devant vous, ça vous aspire, ça vous aide. Il faut avoir un petit gabarit, un petit grimpeur qui vous amène au sommet du col.
Alors vous êtes évidemment un passionné de vélo, vous avez suivi tous ces
Tours
de France.
Je fais 5000 km par an.
Mais maintenant, voilà, vous en faites vous-même, il n'y a pas si longtemps que ça, vous y êtes mis sur le tard.
J'ai commencé après le Tour gagné par les mains, j'ai voulu savoir ce que c'était que cette épreuve.
C'était pour partager la souffrance des coureurs,
j'ai voulu savoir ce que c'était, et là j'ai commencé, j'avais 48 ans, et on m'a aligné sur une épreuve terrible. Pour le Téléthon, j'ai fait le Mont-Saint-Michel-Paris, 520 km, dont 18 heures de nuit dans la pluie et le vent. C'est les routes de mon enfance, de Normandie et des plages du débarquement. Quand je suis rentré chez moi, ma femme m'a pas reconnu, j'avais 4 kilos en moins. Et Cyril Guimard, qui nous accompagnait de nuit, m'a dit « Tu as gravi l'Everest alors que tu ne savais même pas monter les falaises de Fontainebleau, il faut pas que tu t'arrêtes en si bon chemin. » Et 6 mois après, j'ai...
Pour reprendre tout de suite, c'est ça, il faut continuer.
Non, 6 mois après, j'ai fait le Ventoux. Oh. Et j'ai fait 4 fois le Ventoux, 4 années de suite. J'ai failli mourir parce que j'étais déjà âgé et je savais pas que le vélo était aussi technique. J'ai continué. Je me suis fait très mal, comme l'on dit. J'ai beaucoup souffert. Et puis maintenant, c'est une douleur. Vous savez, c'est très particulier. On est en manque. Greg LeMond et surtout Lance Armstrong, qui m'a reçu chez lui dans le Colorado, il s'est arrêté avant tous ces drames qu'il a connus. Il s'est arrêté 3 ans. Je suis allé le voir pendant 3 jours à Aspen. J'ai dit, mais pourquoi à 37 ans, tu reviens? Il me dit, parce que la douleur me manque. Il y a une accoutumance à la douleur.
Mais il y a un côté masochiste.
Et moi, la douleur me manque. Quand je roule pas pendant un mois, ça me manque. J'ai besoin de cette souffrance-là. Et depuis que je fais du vélo, depuis les années 90, je suis beaucoup plus performant professionnellement. Si ma carrière à la radio, à la radio et surtout à la télévision s'est prolongée après 90, et si elle continue encore malgré mon grand âge, et j'ai 50 ans de télévision l'année prochaine, c'est grâce au vélo. Ça m'a appris
l'endurance. Grâce à cette école-là.
C'est une école de modestie, c'est une école de souffrance. Qu'on soit célèbre ou pas, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit jeune ou âgé, ouais, quand on monte le Ventoux, la souffrance est la même, qu'elle soit à 8 km/h ou à 22.
Et ça, c'est assez.
C'est l'école de la souffrance.
On n'a pas de meilleure école que celle-là.
C'est une école d'humilité.
On s'est croisé dans l'escalier tout à l'heure et vous me disiez que finalement, une carrière, c'est un travail par étapes. Hein,
non, mais une carrière d'homme de télévision, je vous souhaite d'en faire une très longue. Hein, vous le méritez largement. Une carrière, c'est une course par étapes. Par exemple, je fais 40 étapes chaque année, 40 vivement dimanche. Vos émissions sur l'histoire sont des étapes. Eh bien, je m'y prépare l'été, comme à un Tour de France. Il y a 40 étapes, il y a des étapes plus dures, de col, il y a des invités plus durs que les autres, il y en a, on peut être en roue libre. Eh bien, c'est comme dans le peloton. Pour faire carrière à la télévision, faire carrière dans la vie, dans des métiers aussi endurants, compliqués que les nôtres, il faut savoir grimper, il faut savoir descendre, il faut savoir ne pas être numéro un, il faut savoir être dans le peloton de tête, il faut savoir s'abriter du vent, il faut savoir récupérer, et il faut choisir les bons équipiers.
C'était mieux que la morale, c'était la philosophie du Tour de France par Michel Drucker.
Faites du vélo et vous comprendrez mieux ce que c'est que la souffrance, l'endurance et l'humilité et la modestie.
La chute de la veille me brûle des épaules. Aux orteils, j'ai glissé tout seul sur des bandes blanches à Marseille. Je ne suis qu'un pansement pédalant derrière les autres et grimaçant, loin du peloton, loin au classement. Plus que 10 jours avant Paris, encore 10 nuits et c'est les champs. Respirer me fait souffrir, s'alimenter, vivre et courir, fantôme vide et rincé. J'attends le pire. Je n'ai gagné que des douleurs au classement du meilleur grimpeur. Je vais mourir avant 5 heures.
San Severino sur Europe 1 avec 10 jours avant Paris, extrait de son album sorti en 2006. Exactement, nous vous retrouvons, Franck, pour évoquer la saga du Tour de France, toujours en compagnie d'Alban Lepoivre, qui est journaliste au service des sports d'Europe 1, Jean-François Pécheux, ancien coureur cycliste, directeur de course du Tour de France, et puis Benoît Emmermann, grand reporter à l'Équipe Magazine, écrivain, auteur du livre, je vous le rappelle, Ils ont écrit le Tour de France, la grande boucle vue par les écrivains, disponible aux éditions Flammarion.
Comme toutes les sagas, comme toutes les épopées, le Tour de France a eu ses moments forts. Et parmi ces moments forts, il y a évidemment les drames. Alors, on faisait allusion tout à l'heure à l'accident de Tom Simpson. Voici ce qu'on pouvait entendre ce jour-là, c'était en 1967, sur l'antenne d'Europe 1.
Je dois dire que ce tout, je le partage, car Tom Simpson a donné souvent l'image d'un coureur qui allait au-delà de ses ressources. C'est un homme qui avait des qualités athlétiques, mais c'est un homme qui certainement n'avait pas organiquement les capacités suffisantes pour supporter les grandes fatigues des courses cyclistes. Alors, je crois vraiment, il a semblé avoir les attitudes, à avoir le visage, à avoir les réactions de ce coureur dans d'autres cas, qu'il devait avoir recours à des stimulants. Ceci posé, si la chose était vérifiée, ça serait une raison supplémentaire pour comprendre que le sport cycliste, comme le sport dans son entier, doit faire face à ce problème avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de résolution. Et je crois que le sport cycliste et le succès dans le sport cycliste, comme dans n'importe quel autre, ne vaut pas la mort d'un homme.
On se rend compte, Alban Le Poivre, qu'en 1967, on parlait déjà beaucoup de dopage.
Oui, on en parlait. Alors, cette histoire avec Tom Simpson, ça a été, je pense pas me tromper, les prémices en tout cas du dopage dans le cyclisme et les prémices du dopage dans le Tour de France. On l'a pas forcément découvert, mais le grand public l'a découvert à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la mort d'un homme, c'est ce qu'on vient d'entendre dans cette archive, et à aucun moment, aucun sport, aucun événement sportif ne peut justifier la mort d'un homme. Et ça, le grand public l'a découvert à ce moment-là, l'a découvert via Tom Simpson. Ensuite, il y a eu d'autres grandes affaires de dopage qui sont ressorties, notamment l'affaire Festina en 1998, qui a ébranlé, je vais pas dire une deuxième fois, le monde du cyclisme et du Tour de France. C'est celle qui a créé peut-être une fissure. Mais les prémices du dopage pour le grand public, en tout cas au sein du Tour de France, ces prémices sont nées en 67 avec le décès de Tom Simpson.
Est-ce qu'on peut dire qu'une ombre est venue voiler un certain nombre des années du Tour de France, un certain nombre des grands souvenirs, du fait justement de ce dopage dont on découvre aujourd'hui l'étendue?
Alors moi, j'étais pas là à ce moment-là.
Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on peut dire finalement, il y a des années mortes en quelque sorte à cause de cela?
Oui, certainement.
Depuis 1998 jusqu'à 2005, on peut dire que, disons 2000, il faut tourner la page rapidement. Et puis on est reparti, je pense, grâce à tous les efforts qui ont été faits par toutes les familles du cycliste, les coureurs, les groupes sportifs, les organisateurs. Aujourd'hui, on a fait une belle avancée dans le dopage. Alors le dopage, c'est toujours une lutte entre les professeurs et les laboratoires. Malheureusement, aujourd'hui, les professeurs sont un petit peu plus forts que les laboratoires, vont plus vite qu'eux. Et le problème, c'est que les groupes sportifs font toujours appel à ces professeurs. Et voilà, c'est l'argent qui est en jeu. Il y a beaucoup de choses en jeu. Et c'est difficile de lutter. Mais je crois que le sport cycliste a été le premier sport à véritablement taper sur la table. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a retrouvé un cyclisme beaucoup plus serein. Et beaucoup plus propre et beaucoup plus sain.
Et en même temps, on peut imaginer quels dégâts ces affaires de dopage auraient pu faire dans d'autres sports, sur d'autres événements. On a presque l'impression que le Tour de France sort de là quasiment indemne, tellement est puissante justement la mythologie.
Bah, c'est ce qu'on disait en début d'émission, Franck. C'est que le Tour de France est plus fort que tout.
C'est ça.
Le Tour de France est plus fort que les tricheurs. Le Tour de France est plus fort que ceux qui ont utilisé des moyens non légaux pour arriver à leur fin. Et c'est ça aussi. C'est parce que le Tour de France est là depuis tellement d'années. Le Tour de France est inscrit dans le patrimoine. Je crois que c'est Benoît Emmermann qui le disait aussi. Le Tour de France, c'est quelque chose de populaire qui a lieu pendant les vacances des Français au mois de juillet. Donc c'est quelque chose qui est tellement plus fort que tous ces gens-là et que tous ces tricheurs. C'est pour ça que le Tour de France, aujourd'hui, est encore là. Le cyclisme est peut-être ébranlé, mais le Tour de France, lui, reste debout.
Et il a été arrêté que deux fois par les deux guerres mondiales. Sinon, il n'a jamais été arrêté par autre chose que par les deux guerres.
D'ailleurs, dans un ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle « Le Tour de France en 100 histoires extraordinaires » par Christian Louis et Climon, on date en quelque sorte différents événements des Tours de France et des grands événements du Tour de France. J'ai débarqué en ce bas monde l'année où Louison Bobert remportait son premier Tour de France à 21h30 le soir du contre-la-montre victorieux entre Lyon et Saint-Étienne. Telle est la première phrase d'Eclimon dans cet ouvrage. Et c'est vrai que nous avons tous, comme ça, un certain nombre de souvenirs en rapport direct avec le Tour de France. La grande différence avec vous, Jean-François Pécheux, c'est que vous avez des souvenirs qui sont les souvenirs du Tour lui-même. Vous y êtes en direct. Est-ce qu'il y en a un particulièrement que vous aimeriez évoquer?
Non, parce que je crois qu'il y en a tellement que c'est difficile de faire un tri. Je pense que lorsque je vais prendre un petit peu de recul, peut-être que là, il va y avoir un ou deux événements qui vont ressortir. Alors les plus mauvais, c'est le Tour 98, parce qu'il a été exécrable sur toute sa durée. On s'est enfermé dans un système et voilà. Les mauvais souvenirs, c'est le décès de Casartelli par accident. Là, il est tombé sur la route et malheureusement, ce sont des drames qui arrivent. Le sport cycliste, c'est un sport dangereux. Les bons souvenirs, je crois que les bons souvenirs, c'est d'arriver sur ces fameux Champs-Élysées lorsque on arrive et que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu d'incident, pas de problème particulier. Et là, on est content d'arriver à la maison avec tout le monde.
Et puis quand vous aurez pris du recul, comme vous dites, vous écrirez des livres, vous aussi. Ah, et vous viendrez alimenter cette extraordinaire avalanche d'ouvrages sur le Tour de France. Donc le Tour de France en 100 histoires extraordinaires, je l'ai cité. Les 100 tours, la grande histoire du Tour de France par Peter Cossins, Isabelle Best, etc. C'est tout un ouvrage préfacé par Bernard Hinault chez Flammarion. Les victoires de Poulidor chez Artaud. Ça c'est parce qu'après tout on dit toujours que Poulidor était le second, mais il en a gagné beaucoup même des étapes. Le Tour de France pour les nuls de Jean-Paul Vespini, c'est chez First. La caravane du Tour de France, histoire au singulier et histoire au pluriel par Yves Arnal. Ça c'est assez amusant, inattendu aussi. Et puis Maillot jaune, des histoires et des hommes de Pascal Sergent. De même que le magazine Des Tours en France qui réalise un spécial Tour de France absolument magnifique d'ailleurs. Ça s'appelle La France vue du Tour. Et ça c'est pour tous ceux qui ne sont vraiment pas fans de cyclisme, mais qui adorent le patrimoine et les monuments et les beaux paysages, car le Tour de France, c'est aussi cela. Merci beaucoup, messieurs.
Merci à vous.